faut que je dise ce que je ressens dans cette photo.
Je suis déçu. C'est marrant parce que... Image, je m'attendais à une image, c'est pas une image. Oh, c'est pas une image, ça marche pas du tout, ça. J'étais trompé sur la marchandise, là, ça va pas du tout. Ah bah non, c'est pas une image. Cette image, elle est à l'intérieur, alors, et moi, je l'ai pas, là. C'est vraiment... C'est un rapt. On me dit, ouais, hein, on me dit, bah, c'est pas d'image, circuler, y a rien à voir. Quand même incroyable de faire ça aux gens, non?
Portrait of Something I'll Never Really See. Autoportrait de Gavin Turk proposé au regard de 10 artistes. Photographe, écrivain, théoricien de l'art, metteur en scène, réalisateur, comédien, plasticien. Et des extraits d'autoportraits d'Edouard Levé, d'Homo Spectator de Marie-Josée Monzin et de Pour une philosophie de la photographie de Willem Flusser. Un documentaire réalisé pour Pièces Détachées par Clara Chabalier et Julien Faison, avec une musique de Johan Romanou, à partir du spectacle Autoportrait mis en scène par Clara Chabalier.
Faire une image, c'est mettre au monde l'homme comme spectateur. Être un humain, c'est produire la trace de son absence sur la paroi du monde et se constituer comme sujet, qui ne se verra jamais comme un objet parmi les autres, mais qui, voyant l'autre, lui donne à voir ce qu'ils pourront partager. Des signes, des traces, des gestes d'accueil et de retrait. Faire une image, c'est donner à voir à un autre, fût-ce à soi, en tant que sujet séparé de soi, la trace des retraits successifs. Donc, des mouvements ininterrompus. Quelque chose se met en place dans l'espace collectif, où se joue en même temps la communauté du spectacle et la solitude de la vision.
Alors, c'est un homme, le visage d'un homme, la tête. Il a les yeux fermés, la bouche fermée, il a les cheveux rasés. Il a l'air d'avoir... d'être un peu chauve, de toute façon. Et il est brun. Il a des sourcils fins, les oreilles, des petites oreilles assez collées. Un gros grain de beauté en dessous de la bouche, sur la joue, à droite. Puis une petite cicatrice sous le nez, sur la lèvre supérieure, je crois. Deux mêmes petits boutons. Oui, il a les yeux fermés, le visage détendu, comme s'il dormait, mais je sais pas, c'est pas ça. Le front assez haut, les rides au front, peut-être des soucis, ça machin. Ah oui, une petite cicatrice aussi, hein, au-dessus du sourcil gauche, à l'intérieur. La bouche un peu crispée, peut-être. Je sais pas, il y a un truc. Ça dégage pas la paix, quoi. Ça dégage pas une espèce de paix intérieure. Ouais.
Adolescent, je croyais que vivre mode d'emploi m'aiderait à vivre et suicide mode d'emploi à mourir. J'ai passé 3 ans et 3 mois à l'étranger. Je préfère regarder sur ma gauche. Un de mes amis jouit dans la trahison. La fin d'un voyage me laisse le même goût triste que la fin d'un roman. J'oublie ce qui me déplaît. J'ai peut-être parlé sans le savoir avec quelqu'un qui a tué quelqu'un. Je vais regarder dans les impasses. Ce qu'il y a au bout de la vie ne me fait pas peur. J'archive.
C'est la tête. Hein. Donc c'est ça qu'on peut rêver sur. Sur cette idée de la tête, Marguerite Duras parlait d'un petit garçon dans l'été 80, elle disait qu'il était fragile, les membres comme du verre, peut-être cassable, etc. Elle disait d'autres choses, et puis elle le décrivait, puis la tête, elle disait, puis la tête, émergence mathématique. Je ne sais plus ce qu'elle disait après. Et là, c'est là donc on voit bien. Ce qu'on voit bien, c'est ce que ça renferme. C'est-à-dire, c'est comme une planète, on dirait, parce qu'il est assez. C'est un visage, une tête assez ronde, c'est régulière, symétrique, et un front immense comme ça. Et une qualité de photo très belle qui fait qu'on a l'impression de presque de toucher la peau à mesure qu'on la regarde. Quand on regarde cette photo, comme une mise à disposition à l'infini, comme ça, d'un visage. C'est bizarre, j'ai du mal à dire visage à cause des yeux fermés, en fait. C'est ça qui donne sans doute le côté boîte, comme une pierre, comme une planète.
Un visage, je dirais un visage de quelqu'un de très doux qui voudrait se donner l'air un peu féroce, quoi. Bon, mais pas... les oreilles très dissymétriques, ce qui est toujours un signe d'intelligence. Et alors les yeux fermés, évidemment, peuvent nous faire dériver, nous faire imaginer des tas de choses, quoi.
Non, mais ce qui est assez étrange dans la photo, mais c'est pas un avis ou une sensation, c'est le fait qu'il soit rasé. Du coup, je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de cheveux, que les cheveux soient rasés, ça crée une sorte de truc très neutre. Plus que son air. Parce qu'il ne serait pas rasé, les cheveux qui tomberaient, par exemple, tu vois. Là, on n'a pas d'information s'il est allongé ou s'il est debout. Donc on essaie de voir un peu avec sa peau si elle tombe ou pas, quoi, tu vois. Mais bon, c'est ça un peu qui rend une sorte de certain mystère dans la photo, je pense.
Mais là, lui, du coup, il est pas du tout dans le dramatique ou quoi que ce soit. Enfin, on dit ça, on part de ça en se disant qu'il serait peut-être mort, mais il n'est pas mort. En même temps.
J'essaie de trouver un peu de me dire que la première impression n'était pas la bonne, mais quand même, si, un truc. Truc qui me met un peu mal à l'aise. Enfin, je sais pas, ça me. Les sourcils, là, sont très présents sur l'image. C'est-à-dire, c'est très noir, enfin, ça fait comme ça, une espèce de trou. Une espèce de mince gouffre quoi dans la photo, parce qu'en plus c'est plus ou moins au centre de la photo, et donc une espèce de fenêtre comme ça d'échapper des trucs en demi-lune, c'est
bah là enfin, lui se montre, donc lui se voit, je sais pas, au travers de l'autoportrait, c'est sûr, mais nous, de l'extérieur, comme ça, face à une image, je parlais de quelque chose de clos, y a, en tout cas pour nous, il y a un accès refusé d'entrer à l'imagerie qui se développe dans son univers, quoi, dans son intérieur. Ça, c'est évident. Enfin, c'est peut-être ses jolis cils aussi, à ce personnage, tu vois, il a quand même des cils un peu longs, là. Et ça referme, il a une tête assez ronde aussi, il y a un truc très circulaire. Et ouais, on bute sur le blanc aussi de ce bonhomme qui est sur ce fond blanc.
Non, ce qu'on voit tout de suite, c'est quand même c'est cette douceur des cils. Vraiment, 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 c'est... La photo est intéressante parce qu'elle est assez médicale. Du coup, on se dit, tiens, à quoi servent les cils ? Ça pourrait être un... Ouais.
Alors, ouais, qu'est-ce que c'est voir aussi ? Voir ici ou voir là ? Bah oui, parce que ouais, tu vois, les yeux, c'est comme on dit, les fenêtres de l'âme et tout ce que tu veux. Donc, on peut voir c'est ce qu'il pense, parce qu'il peut avoir plus de sensibilité sur les sentiments ou la direction qu'il veut projeter, quoi. Tu vois, la faction là-dedans, il peut montrer s'il est peut-être en colère, drogué, tout détendu ou, tu vois, triste, quoi. Et on n'a pas cette information-là. Quelque chose que j'ai jamais vu. Que je ne verrai jamais. Bah, c'est ce qui se passe dedans, en fait.
Décrire précisément ma vie me prendrait plus de temps que la vivre. J'ai eu l'idée d'un musée du rêve. J'estime que la meilleure partie d'une chaussette est le trou. Une de mes ancêtres avait la manie de conserver. À sa mort, on a retrouvé une boîte à chaussures sur laquelle une étiquette soigneusement calligraphiée indiquait petit bout de ficelle ne pouvant servir à rien. J'ai eu le projet d'un livre musée de l'écriture vernaculaire où seraient recopiés des messages manuscrits par des inconnus, classés par type, annonce pour animaux perdus, justification placée sur les pare-brises, adressée aux contractuels pour ne pas payer le parc-maître, appel sauvage à témoins, indication de changement de propriétaire, message de bureau, message domestique, message adressé à soi-même. Je me trouve plus laid de profil que de face. J'aime mes yeux, mes mains, mon front, mes fesses, mes bras, ma peau. Je n'aime pas mes cuisses, mes mollets, mon menton, mes oreilles, la courbure à l'arrière de mon cou, mes narines vues du dessous. Je n'ai pas d'avis concernant mon sexe. La partie gauche de mon visage ne ressemble pas à la partie droite. Je m'étonne qu'on m'aime. Comme le scalpel d'un chirurgien révèle mes organes, l'amour me conduit vers d'autres moi dont l'obscène nouveauté m'épouvante. Je ne joue pas au casino, je me demande comment je me comporterai sous la torture. Au musée, je regarde le monde avec le regard des artistes, dans la rue avec le mien. Au dictaphone, j'écris légèrement en pensant à autre chose. Je peux comprendre, c'est la fin. C'est le commencement de la fin, c'est le commencement de la fin du commencement, c'est le commencement de la fin du commencement de la fin, mais à partir de... C'est le commencement de la fin du commencement de la fin du commencement, je n'entends plus que le bruit des mots. Je n'ai pas pris en horreur mon héritage. Je ne me prosterne pas devant des idoles de métal. J'ai parfois l'impression d'être un imposteur sans pouvoir dire pourquoi, comme si une ombre planait sur moi sans que je puisse m'en défaire. Je regrette rarement d'avoir agi et systématiquement de ne pas l'avoir fait. Je repense à la douleur des histoires qui n'auront pas lieu. Je ne sais pas ce qui me manque. Je vois de l'art où d'autres voient des choses. Entre la solitude du ventre de ma mère et celle de ma tombe, j'aurais fréquenté beaucoup de personnes. Je ne veux pas mourir soudain, mais voir la mort venir lentement. Je ne pense pas finir en enfer. Je prévois de mourir à 85 ans. Mon nom et mon prénom ne signifient rien pour moi. Je ne perçois pas le délai des miroirs. J'aime les musées, notamment parce qu'ils me fatiguent. Je préfère, dans l'ordre, nager dans une rivière, dans la mer, dans un lac, dans une piscine. Avec Internet, je deviens télépathe. Mes idées font plus mon style que mes mots. J'écris peut-être ce livre pour ne plus avoir à parler.
L'homme n'a pas directement accès au monde. Les images doivent le lui rendre représentable. Mais à peine l'ont-elles fait qu'elles s'interposent entre l'homme et le monde. Au lieu de le représenter, elles le rendent méconnaissable, jusqu'à ce que l'homme finisse par vivre en fonction des images qu'il a lui-même créées.
Alors ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser à Jean Houry qui dirige la clinique de Laborde. Eh bien, j'étais allé voir suivre un séminaire à Sainte-Anne qu'il donnait une année. Il paraît qu'il continue d'ailleurs, j'aimerais bien y aller. Évidemment, ça s'adresse à des psychiatres, alors je ne comprenais pas grand-chose, mais de temps en temps, il y avait des images comme ça que je chopais. Et il disait que quand on naît, on chope un morceau d'extérieur et on le met à l'intérieur de soi, un morceau du dehors qu'on met dedans. Et ce morceau-là, il est fermé comme une pierre pour toute la vie. C'est un morceau de réel qu'on met dedans, comme ça. Et alors il dit, les fous, c'est le couvercle, il n'est pas complètement fermé, comme un peu une cocotte minute, comme ça, qui laisse échapper des... C'est ça le problème, c'est que c'est ce morceau qui doit rester, morceau de réel, morceau de dehors qu'on met dedans, qui doit rester hermétiquement clos. Chez les fous, c'est un petit peu... c'est pas clos, quoi. Qu'est-ce que c'est cette histoire de étanchéité, oui.
C'est ce qui est intéressant avec une photographie, c'est la relation que tu peux avoir avec toi-même par la photographie. C'est comme lui, quoi. Lui, sa photographie avec les yeux fermés parce qu'il voulait se voir avec les yeux fermés, chose qu'il ne peut pas le faire en live, en dimension réelle, quoi.
Puis il est entièrement nu, quoi. Ça, c'est autre chose, quand même. Ce caractère de nudité aussi, total. C'est assez violent, ça, en termes de représentation. Il y a un côté où il se livre de façon extrême, presque. Parce qu'on aurait tendance à le voir nu. En l'occurrence, on n'a que le visage ici, mais il y a cette dimension de la peau ici qui est donné, et tu sais, c'est toujours curieux, essayer de se faire, de fermer les yeux dans un lieu agité où des gens te regardent, etc. C'est toujours une impression curieuse qui peut se dégager de ça. Et il y a un moment d'abandon là-dedans, qui revient. Ce truc d'un parfait abandon. D'une totale confiance, quoi. Ça, c'est dur. ce rapport au monde, de la totale confiance et de l'abandon. Il y a une identification qui se joue là.
Je dirais que c'est, ouais, ça pourrait être le résultat d'un morphing aussi. Quand on s'amuse à faire avec, je sais pas, avec Photoshop, avec des logiciels pour faire transformer un homme en animal, en femme, en, ou faire vieillir quelqu'un en accéléré. C'est-à-dire que ce serait une étape d'un portrait robot de quelque chose, d'une étape, il serait transitoire. Ça, c'est encore une autre sensation. Il serait transitoire, il serait une étape dans un espèce de projet qu'on ne connaît pas. Darwinico-délirant, quoi. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est, voilà, il pourrait, 5 secondes avant, il aurait pu avoir, je sais pas, moi, les cheveux longs et une moustache. Et sa barbe pourrait pousser ou diminuer. Et là, en fait, il est... Donc, curieusement, c'est pas l'homme, quoi. C'est pas là, c'est pas tout d'un coup une sculpture grecque qui serait l'homme, le parangon de l'homme absolu. Mais ce serait au contraire une image très transitoire d'un être humain. Évidemment, ni femme, ni homme, ni jeune, ni vieux. Donc, ce serait juste une photo de passage. C'est un côté, justement, planche anatomique, mais anatomique. De quelque chose qu'on montre rarement, qui est le rêve et l'extrême détente. Puis finalement, c'est vrai que si on commence à le regarder longtemps, on commence à le voir sourire. C'est une sorte de joconde involontaire, non? Tout d'un coup, à force, on finit par l'aimer, non? Et au début, on le trouve un peu, on le trouve un peu justement cadavérique, et puis progressivement, on commence à voir, alors c'est l'hallucination du matin, je commence à voir légèrement sa bouche commençait légèrement à sourire. Et je vois effectivement ses yeux qui se plissent. Enfin, c'est un peu comme les poupées qu'on habillait autrefois pour les enfants, les petites poupées en carton sur lesquelles on pouvait mettre ce qu'on voulait aussi. Hein. On pourrait découper quelque chose. C'est quand même un modèle en carton. Et c'est, effectivement, on peut y projeter, on peut y projeter toutes les passions qu'on veut. Effectivement, on peut le voir sourire, on peut le voir détendu.
Si je détourne le regard 2 secondes, que j'imagine autre chose, je pourrais peut-être le croire fatigué, malade aussi. Peut-être une forme de blancheur dans son visage. Peut-être des traits fatigués. Quelque chose qui tire dans les yeux. Une envie de repos. Où il pourrait attendre qu'on l'embrasse aussi. Comme s'il avait osé faire le premier pas, mais qu'il n'était pas allé jusqu'au bout, qu'il attendait maintenant que la deuxième personne en face de lui l'embrasse.
Il ouvrira les yeux, on serait mort de trouille peut-être, à force de le fixer comme ça.
J'aime les conversations qu'on peut interrompre sans impolitesse. Conversation téléphonique, conversation avec des voisins sur le palier, conversation avec des piliers du bistrot, conversation avec des inconnus. Je n'ai pas d'arbre préféré, de chanteur préféré, d'amis préféré, de pantalon préféré, de dessert préféré. Je pourrais créer une collection de guides touristiques thématiques pervers, dont les sujets seraient pavillons arrogants, feux de circulation dangereux, prétendus musées, endroits où il n'y a rien de particulier à voir, lieu où a peut-être dormi un archevêque. Avoir la chair de poule me rappelle que je suis un animal il y a des générations. Quand j'attends à ne rien faire, les idées viennent. Je suis enchanté par de nouveaux vêtements comme par une nouvelle identité. Je ne pense pas que les choses étaient mieux avant, ni qu'elles seront mieux plus tard. J'ai chanté sous la direction d'Arnaud Labelle-Rojou et de Guy Scarpetta. À Joyce, qui écrit des choses banales avec des mots extraordinaires, je préfère Raymond Roussel, qui écrit des choses invraisemblables avec des mots communs. Quand je suis heureux, j'ai peur de mourir. Quand je suis malheureux, J'ai peur de ne pas mourir. Je vide ma mémoire. Je ne suis spécialiste de rien. J'ai d'autres sujets de conversation que moi-même. Je ne fais pas d'album photographique. Je prends peu de photographies de mes amis. J'ai pris plus de photographies de moi-même que de mes amis. Un jour, j'ai décidé de classer les photographies non classées que j'avais prises au cours des 15 dernières années pour apercevoir qu'elles tenaient en moins de 10 catégories, parmi lesquelles amis, amantes, famille, passants, murs, vitrines, objets, fenêtres, portes. Je pensais qu'il me faudrait des jours pour réaliser ce classement. En 3 heures, il était terminé. Je ne prends plus de photographies de tourisme depuis que j'ai constaté que je ne le regardais qu'une fois, distraitement, au retour du laboratoire pour juger qu'elles n'avaient pas plus d'intérêt que ce qu'elles étaient, des photographies de voyage. J'ignore plus de choses que je n'en sais sur mon corps. Je rêve d'une écriture blanche, mais elle n'existe pas. Je suis intarissable sur mon propre sujet. Je préfère que l'on me raconte une exposition plutôt que de la voir de mes propres yeux. Je suis autant touché par une bonne qu'une mauvaise nouvelle. Du coup, une mauvaise nouvelle peut être bonne. La vraie mauvaise nouvelle serait qu'il n'y ait aucune nouvelle. Dans la rue, j'ai regardé l'heure alors que je tenais une canette de coca dans la main gauche. J'en ai renversé une partie sur mon pantalon. Par chance, personne ne m'avait vu. Je ne l'ai jamais raconté. Je ne suis pas certain de pouvoir servir d'exemple à la jeunesse. Je fais plus de choses lorsque j'ai peu de temps que lorsque j'en ai beaucoup. J'aimerais communiquer sans utiliser la parole ou les gestes et percevoir d'un coup le contenu du cerveau de mes interlocuteurs comme une photographie. Au petit déjeuner, je suis seul, même si je suis avec quelqu'un. J'aimerais chantonner dans la rue comme si j'étais seul. Dans les cassettes enregistrées au dictaphone il y a quelques instants, je n'écoute pas le contenu des mots, mais le son de ma voix. Le trouble vient moins du dédoublement que de la disparition du sens. Ma voix enregistrée il y a une minute sur un dictaphone à cassette a l'air plus ancienne que ma voix enregistrée numériquement il y a 5 ans.
Il y a des photos de Lebrun, j'ai ça quelque part ici, il y a des dessins, des caractères, faut que je le sorte, je ne sais pas si je le trouve, où on voit des planches, alors on voit la colère, enfin, c'est une sorte de catalogue d'expressions. Et celle-là pourrait illustrer tout simplement le rêve. À cause de cette fermeture d'œil très particulière, très, très spéciale.
La première photo, il s'est vu, c'est vrai. Il y a eu la première fois où il s'est vu, lui, où il y a eu cet rapport de psyché, machin, ok, très bien. Mais après, c'est tout un travail pour donner à voir aux autres. Enfin, c'est là où c'est de l'art, sinon c'est une autocontemplation et on la garde dans sa salle de bain. Ou... Tu vois, c'est pas très intéressant, quoi. Enfin, comme quoi le monde est fait comme ça de... d'antinomie et de contraire, c'est-à-dire qu'on a justement la contrainte de le voir pour être dans cet état d'esprit, d'arriver à quelque chose de calme et de concentré. Donc comme quoi, il faut toujours fournir des efforts, quoi. Pour ça.
Non, c'est le titre, en fait. Pour moi, c'est le titre qui veut décrire, en fait, que voilà, si on n'a pas cette connexion directe par rapport à ça, c'est parce qu'en fait, il se projette comme l'âme qui peut rester... en lui qui se déplace dans le temps, tu vois, avec ses bouquins, que quelqu'un peut l'ouvrir. Et par exemple, lui, il est présent maintenant. Là, on dirait que c'est là, on est en quatrième personne, on est 3 là, et là, c'est une quatrième personne. Bah, du coup, nous, on le voit, mais lui, il ne nous voit pas. Donc, cette confrontation, il a cet triangle qui existe entre photographe, sujet, et après, les gens qui regardent le photographe avoir pris le sujet en photo, tu vois, n'existe pas. Du coup, ça reste comme... Il manque une pièce, et c'est justement les yeux, parce qu'il n'a pas les regards. Donc c'est en même temps intérieur et extérieur. Là, il n'a pas de connexion, tu vois, c'est ce triangle-là, il manque une pièce. Parce que du coup, il est présent, mais il n'est pas là. Donc, une photo, c'est ça. Du coup, quand tu vois, s'il te regarde, bah, ça veut dire qu'il regarde le photographe. Et quand toi, comme spectateur, tu prends la place du photographe au moment, parce que les choses que tu es en train de regarder te regardent. Et donc là, pas non. Donc, il manque une pièce. Il manque une pièce pour le triangle. La fusion entre réalité et fiction. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux quand on joue. Donc, dans une photographie, et en quel moment c'est vrai pour dire ça c'est vrai ou ça c'est faux. Parce que déjà, de toute façon, la photographie, elle fait que supprimer des éléments qu'on trouve dans notre dimension. D'autres dimensions, voilà, largeur, hauteur, que c'est la photographie, on supprime tout ce qui est odorat, par exemple, température, son. Et là, on est en train de faire quelque chose pareil, de cet registre-là, quoi. Juste concentré sur un aspect. Que là, c'est l'aspect sonore.
Et celle-là est intéressante parce qu'elle est effectivement... Elle dit plusieurs choses en même temps. Donc, elle ne dit pas simplement voilà, la détente ou la morbidité. Elle dit plusieurs choses. Elle fait circuler. Elle a une puissance évocatrice assez grande. Mais cette puissance ne peut se libérer, à mon avis, enfin, en tout cas pour moi, que quand elle est décontextée de son... quand elle est hors contexte artistique.
Là, je trouve que le titre est super intéressant, et c'est vrai, et c'est un truc très simple. Et là aussi, souvent, c'est ce qui, on va dire, fonctionne le mieux, c'est quand on va dans un endroit très simple comme ça, c'est-à-dire prendre une photo de quelque chose que lui-même ne verra jamais, mais après tout, ça, c'est à la fin, c'est fait pour être donné à d'autres gens qui vont le voir. Donc effectivement, avec titre, on a quelque chose à en dire encore autre de sans titre, ça évidemment, quoi. Ça, c'est le rapport à l'œuvre en général, quoi.
J'écris mieux que le soir que la journée, jusqu'à ce que soudain, je me rende compte que c'est fini, la fatigue m'a vaincu. J'éteins l'ordinateur et je me couche. Mon frère et moi, nous sommes comme le jour et la nuit. Je suis peut-être la nuit. Je croyais connaître peu de faits me concernant. Si par un jour ensoleillé, j'arpente du matin au soir les routes à la recherche de sujets photographiques, le soir venu, je rentre harassé par une bonne fatigue, les yeux endoloris par l'excès de lumière, je me couche fourbu dans le noir, les images de la journée défilant comme un diaporama aléatoire jusqu'à ce que le sommeil m'assomme. Le lendemain, je me réveille avec des cernes sous les yeux, comme si j'étais puni par les organes dont j'ai abusé. Je ne pourrais pas être la même personne dans un autre corps. Je remercie facilement. Je cherche à écrire dans une langue que n'altérerait ni la traduction, ni le passage du temps. Je ne pense pas toujours choisir le bon moment pour dire au revoir dans un lieu public, à quelqu'un qui est occupé par autre chose. Parfois, cette personne ne m'entend pas, alors je recommence, en espérant que personne autour n'a remarqué. Je supprime le superflu. Je pense souvent à ce que les gens disent de moi quand je viens de les quitter. Peut-être qu'ils ne disent rien. Au curling, le balayeur me fait rire. Ma vie ne ressemble pas à un marteau. J'ai vécu 14 370 jours. J'ai vécu 384 875 heures. J'ai vécu 20 640 000 minutes. Mon œil n'est pas rassasié de voir, ni mon oreille d'entendre.
L'appareil photo est programmé à produire des photographies, et chaque photographie réalise une des possibilités qu'offre le programme de l'appareil. Le nombre de ces possibilités est élevé, mais fini. C'est le nombre de toutes les photographies qui peuvent être prises par un appareil. Tout se passe comme si le photographe pouvait choisir librement, comme si l'appareil photo obéissait à son intention. Cependant, le choix demeure limité aux catégories de l'appareil, et la liberté du photographe reste une liberté programmée. L'appareil fait ce que veut le photographe, et le photographe doit vouloir ce que peut l'appareil. L'image ne produit aucune évidence, aucune vérité, et ne peut montrer que ce que produit le regard que l'on porte sur elle. Le visible ne contient pas l'image, tout comme ce qui est fini ne contient pas l'infini. Le visible est une trace, vestige d'une présence incommensurable. Le visible est déserté par ce qu'il montre. Voir une image, c'est accéder à la béance du visible, au cœur du visible lui-même. C'est proposer au regard l'immanence d'une absence. Il revient donc à ceux qui font des images de construire la place de celui qui voit, et à ceux qui font voir les images des premiers de connaître les voies de cette construction. L'analphabète ne sera pas celui qui ignore l'écriture, mais celui qui ignore la photographie. Ne vaut-il pas moins encore qu'un analphabète, le photographe qui ne saurait pas lire ses propres épreuves? Telle est la démocratie dans la société post-industrielle. Chacun pense qu'il est inutile de déchiffrer les photos, puisque chacun croit savoir comment elles sont faites et ce qu'elles signifient. L'analphabète n'est plus, comme autrefois, exclu de la culture encodée dans les textes. Désormais, il participe presque entièrement à la culture encodée dans les images. Partout, nous voyons nos pensées, nos sentiments, nos désirs et nos actions se robotiser. Et constatons que vivre signifie désormais alimenter des appareils et être alimenté par eux. Dans ces conditions, où y a-t-il encore place pour la liberté humaine ? Si tout repose sur le hasard et aboutit nécessairement au néant, où y a-t-il place pour la liberté humaine ? C'est alors que nous découvrons des hommes qui sont peut-être en mesure de répondre à ces questions. Ce sont les photographes. Ils sont d'ores et déjà, à petite échelle, les hommes du futur. Qui sera celui des appareils ? Leurs gestes sont programmés par l'appareil photo. Ils jouent avec des symboles. Travaille dans le secteur tertiaire, s'intéresse aux informations et produisent des choses dénuées de valeur. Toutefois, cela ne les empêche pas de tenir leur activité pour tout sauf absurde et de penser agir librement.
C'est vrai, il est quand même très absent. C'est pas du fait de sa absence de regard, il est très absent. C'est-à-dire, si vous l'avez chez vous, si vous avez ça en grand chez vous, ça doit finir par être énervant parce qu'on ne sait pas du tout qui c'est.
Si vous ne m'aviez pas dit que c'était Gavin Turk, c'est impossible de repérer quelle nationalité il a, quoi. C'est un.
Moi, j'ai dit que ça ressemblait à la photo allemande parce qu'il y a des tas de photos comme ça.
Qui jouent la frontalité,
la sobriété. Les et Thomas Ruff. Thomas Ruff. Surtout qui joue ce truc, le truc frontal, où on vous dit tout, quoi. Sans rien vous dire d'ailleurs en même temps. Mais au fond, c'est pas du tout ça, quoi. Ouais, c'est... Ben voilà, je crois qu'on a. On a tout dit.
Alors, non, parce qu'il y a une chose, en regardant qui m'intéresse, moi, c'est que j'étais en train de réfléchir, et je ne sais pas du tout d'ailleurs si ce que je vais dire est vrai ou pas, qu'on disposait finalement dans l'iconographie, aussi bien picturale que photographique, de très peu d'images où les yeux sont fermés. Alors, il doit y avoir quelques Pietà, des centres de croix, où le Christ a les yeux fermés. Et dans les photographies d'identité, quelques cadavres. Pas tous, mais sûrement quelques cadavres qui ont les yeux fermés. Je crois que la dernière photo de Che Guevara, il doit avoir les yeux fermés, si je ne me trompe pas.
Ben voilà.
Non, mais moi ce qui me frappe, bon, en ayant un peu de repères comme ça, c'est que contrairement à beaucoup d'autoportraits, y compris utilisant le médium de la photographie, où le processus tend vers l'autofiction, c'est-à-dire qu'on tend à projeter le portrait vers une déformation, vers un univers onirique... vers un jeu de rôle, comme c'est dit Sherman ou Tatjan, bon, ou vers des déformations presque abstraites. Enfin bon, le parti pris est hyper réaliste, quoi. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est vraiment qu'on puisse faire une image où il puisse voir ce qu'il n'a jamais vu, c'est-à-dire son visage, les yeux fermés. Mais il n'y a aucune intention... Il n'y a aucun processus esthétique qui vient transformer ça, quoi. C'est-à-dire que...
Mais en même temps, c'est très soft, c'est très... Je veux dire, c'est pas du tout hard, c'est pas brutal. Non, comme certains autoportraits comme ça, en gros plan, sont... vous épargnent rien, la moindre ride, le moindre truc. Là, c'est quand même assez lisse. Hein. C'est
mais il n'y a aucune agression d'image.
C'est pas du tout agressif.
Il n'y a aucune agression d'image.
Pas agressif.
Alors qu'il y a des tas de gens qui ont joué sur l'agression de leur propre image.
Oui.
Bon, des tas. Ce qui est toujours très profanateur, blasphématoire, quoi. Non seulement par rapport à l'imago, c'est-à-dire à l'image toujours un peu idéale qu'on se fait de soi-même, mais, je sais pas, on appartient à une tradition culturelle et religieuse où l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que agresser cette image de l'homme, cette image ou ce visage, hein, c'est d'une certaine manière agresser une image d'image de Dieu. Or là, pas du tout. Ça n'agresse rien. Mais bon, avec quand même une volonté d'évacuer toute forme d'expressivité ou de pathos ou de sentiment, ça vise la neutralité pure.
L'impossibilité de voir la face de l'Éternel dans le judaïsme, le triomphe de la face du Fils dans le christianisme, la tension critique portant sur le visage dans l'islam sont indissociables du constat que chacun peut faire, à savoir que nul jamais ne pourra se voir lui-même. Nul ne pourra lever ses yeux vers soi et contempler son propre visage. L'impossibilité de se voir autrement qu'à distance de soi par le médiateur d'une image qui ne sera jamais un objet pour la vision signe l'irréductible écart qui sépare pour toujours l'humain de l'accès à son propre visage autrement que par la voie du reflet et du déplacement.
« déjà le regard des hypnotiseurs, y compris sur les photographies. Tout ce que je dis est vrai, mais qu'importe. La vie des célébrités m'intéresse moins que celle des inconnus. Je vivrai bien une deuxième fois, mais pas une troisième. Je n'ai rien à dire sur les citernes. Je sais jusqu'où je suis vu, mais pas jusqu'où je suis entendu. Je n'utilise pas les expressions suivantes. Ça me parle. À plus, il y a du désir. Ça le fait. C'est tip-top. Je ne dis pas à quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Je cherche les choses simples que je ne vois plus. J'ai du mal à interdire. Je ne suis pas mûr. Je vote. J'ai vu un aigle. J'ai vu des étoiles de mer. Je préfère le désir au plaisir. Ma mort ne changera rien. J'aime écrire dans une langue qui ne me soit pas propre. Après m'être coupé les cheveux, ils sont trop courts. Je fais des commentaires, je passe à autre chose. Je demande plusieurs devis. Souvent, j'aimerais être demain.
Complètement impassible. Lui, il est comme ça, on ne peut pas savoir. Sauf qu'on sent à travers cette photo, qui n'est qu'une photo, mais néanmoins, on sent sa vie. C'est ça qui est étrange. Ouais. C'est que les traces portent aussi la chose elle-même. Quoi. Dans photo, c'est que de la trace. Hein.
Il y a quand même une volonté d'arriver vers l'impassibilité, quoi, vers l'immobilité. Il n'y a aucune émotion, bien sûr. C'est un constat visuel.
Moi, ce que je dirais surtout, c'est que bon, c'est le photographe qui a fait la mise en scène, c'est-à-dire les yeux fermés. L'idée, c'est de faire un portrait qui ne vous regarde pas. L'idée, c'est de priver le regard, quoi. Alors que dans tous les portraits, c'est... Donc c'est ça, en fait. C'est très neutre, c'est très serein. C'est très serein, il n'est pas antipathique. Il serait plutôt sympathique, mais enfin, ça reste quand même très neutre. Mais c'est surtout, bon, c'est un portrait sans regard. Mais c'est quand même un portrait qui dit plein de choses. Enfin, en tout cas, physiquement, c'est très intime.
Ça m'embête que ce soit un artiste qui fait ça. Enfin, ça m'embête, ça m'intéresse pas tellement que ce soit un artiste. Justement, tout d'un coup, si on me dit c'est un artiste, alors j'imagine la prise de vue, j'imagine le travail, le studio. Tout d'un coup, je me dis, bon, ok, derrière, c'est un bizarre rouleau qui font. Enfin, j'ai oublié le nom, je sais pas pourquoi. Ça m'ennuie que ce soit une personne, oui. J'aurais aimé que ce soit anonyme absolument. Que ce soit sans titre, sans nom, sans rien. Sans auteur.
On se voit toujours avec une intention, avec un regard. Du coup, c'est ça. Oui, c'est ça que je veux dire. Mais comme quoi, alors du coup, il y a un truc assez à plat dans l'idée même de faire cette photo. Je trouve que c'est l'image de mort, comme ça, quand on la voit. Mais pour plein de raisons, tu vois, parce que peut-être qu'il n'y a plus de cheveux, enfin, tu vois, c'est sa coiffure. Mais je trouve que c'est un peu une photo qui est un peu à plat, quoi. Tu vois, ça rend quelque chose d'à plat, tu vois, donc... Du coup, j'ai du mal. Le fait est aussi que, comme on voit bien ses rougeurs et tout... Je sais pas, il y a une sorte de c'est maladif, quoi, comme photo, mais je sais pas, le fait que ça, de capter une image, déjà, de toute façon, dans le fait de capter une image, il y a une sorte d'instinct de mort, de mémoire, quoi, de mort. Enfin, en tout cas, le moment où ces gens-là, ils n'existent plus comme ils les ont existé maintenant. Même quand c'est des images mises en scène. C'est propre du cinéma aussi, c'est pareil.
De toute façon, il y a quelque chose qui touche à la mort dans toute la photographie. Hein, ça, c'est bon. Barthes a écrit des pages et des pages là-dessus, quoi, sur le... À partir du moment où la photographie fige ce qui est vivant, mobile, etc., c'est un peu de la mort. Bon, à partir du moment où une photographie vous dit « ça a été », ça veut dire que ça n'est plus. Il y avait dans une des pièces de Tadeusz Kantor un truc formidable, où il y avait un photographe qui prenait les photos de gens qui étaient des spectres, hein, qui ressortaient comme ça d'outre-tombe. C'était, je crois que c'était dans Vielopol, hein, il me semble bien. La caméra sur trépied se transformait en mitraillette. À chaque fois qu'il prenait une photo, il y avait un corps qui tombait. C'était théâtralement absolument magnifique, quoi, mais métaphoriquement aussi.
Les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, c'est comme s'il n'y avait plus de son, plus de bruit, et qui baignerait. Ça me rappelle les images qu'on projette souvent d'un truc un peu d'un paradis là où tout flotte, où tout est calé dans une atmosphère nuageuse. Il a l'air pas trop mal comme ça. Il a l'air quand même pépère. Cette sérénité, elle est agréable. Mais c'est fou comment c'est la lumière qui participe de ça. Il n'y a pas une ombre dans l'image. Quasiment pas. Légèrement à l'arcade, un petit peu. Mais il est complètement baigné dans tout ça.
Remonte à mon adolescence avec un ami chez qui nous buvions des cocktails que nous mélangeions au hasard avec les alcools de sa mère. Nous parlions jusqu'au lever du soleil dans le salon de cette grande maison qu'avait fréquenté Mallarmé. Au cours de ces nuits, j'ai formulé des discours sur l'amour, la politique, Dieu et la mort, dont je ne retire aucun mot, même si je les ai parfois conçus en me roulant à terre. Des années plus tard, cet ami a dit à sa femme qu'il avait oublié quelque chose dans la maison au moment où il partait jouer au tennis. Il est descendu à la cave et s'est tiré une balle dans la tête avec le fusil qu'il avait soigneusement préparé. J'ai des souvenirs de comètes au faisceau foudroyant. Je lis le dictionnaire. Je me demande où patientent les rêves dont je ne me souviens pas. J'ai lu plus de tome 1 que de tome 2. La date qu'indique ma carte d'identité est fausse. Je ne sais pas sur qui j'ai de l'influence. Je parle à mes objets lorsqu'ils sont tristes. Je préfère la ruine au monument. Je suis calme dans les retrouvailles. Je n'ai rien contre le réveillon. 15 ans est le milieu de ma vie, quelle que soit la date de ma mort. Je crois qu'il y a une vie après la vie, mais pas une mort après la mort. Je ne demande pas si on m'aime. Je ne pourrais dire qu'une fois sans mentir, je meurs. Le plus beau jour de ma vie est peut-être passé.
C'était Portrait of Something I'll Never Really See, réalisé pour pièces détachées par Clara Chabalier et Julien Faisan, d'après une photographie de Gavin Turk et avec des extraits d'autoportraits d'Edouard Levé, publiés aux éditions POL. Homo Spectator de Marie-Josée Montzin et pour une philosophie de la photographie de Wilhelm Flusser. Prise de son, Julien Faisan. Musique, Johan Romano. Voix, Arnaud Guy, Clara Chabalier et Julien Faisan. Nous tenons à remercier pour leur participation Baptiste Brun, Olivier Cadio, Yves-Noël Genot, Rachel Laurent, Vincent Macaigne, Aldo Paredes, Lucien Reynès, Guy Scarpetta, Clarisse Tranchard et Charles Zevaco. Ce documentaire est une annexe au spectacle Autoportrait mis en scène par Clara Chabalier, d'après le texte d'Edouard Levé et les démarches photographiques de Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman et Francesca Woodman. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur radiocampusparis.org.